Juste une annonce tout à fait pratique. Le culte est filmé et donc si vous ne souhaitez pas figurer, il y a quelques places réservées derrière où vous pouvez vous mettre et comme ça vous n'allez pas figurer sur vidéo de notre culte. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau. Elles avaient vu, juste le vendredi d'avant, comment les choses se sont passées. Aucun doute à leur esprit. Le Seigneur Jésus a été crucifié, il est mort, il était mis au tombeau. Nous prions. Tu n'as pas fini de nous surprendre, Seigneur. Tes voix sont tellement au-dessus de nos voix. Et dans la nuit de notre désespoir, tu te plais à venir tout renverser, tout changer. Pour toi, il n'y a aucune situation sans espérance. Te louons de ce que nous avons un tel Dieu, le Dieu de l'impossible, en Jésus-Christ. Amen.
Je crois que Jésus-Christ, le troisième jour, est ressuscité des morts.
Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 55, au chapitre 28, verset 15. Beaucoup de femmes sont là. Elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala. Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée et s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate, le gouverneur, et lui demande le corps de Jésus. Alors, Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises, en face de la tombe. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate. Ils lui disent « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit, quand il était encore vivant, « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. » Donc, commande que tes soldats gardent la tombe jusqu'au troisième jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple, « Il s'est réveillé de la mort !» Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit, « Voici des soldats, allez, faites garder la tombe, comme vous voulez. » Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, « Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà, ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de partir pour la Galilée, ils me verront là-bas ». Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent « Voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. » Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée.
Donc Jésus est mort. Chez les disciples, c'est la consternation, c'est la tristesse, un sentiment de perdition et probablement aussi de trahison. Comment tu représenterais ça, Martine ?
Alors c'est vrai que c'est un jour de deuil, c'est un jour noir. Je pourrais taguer... Je pourrais taguer jusqu'au plafond, les murs, les portes, le plancher, etc. Et ça dirait même pas la tristesse, la profonde tristesse des disciples. Alors il y a d'abord quelque chose de politique dans cette tristesse. Parce que le procès de Jésus, c'est un procès truqué. C'est une erreur judiciaire grave. En plus de ça, si vous voulez, c'est les gens de son peuple, c'est ses amis, c'est peut-être ses voisins. C'est eux qui l'ont vendu à une armée d'occupation. C'est un juif innocent, raflé dans un jardin un soir de fête, qui était mis à mort. Ça, c'est pour le côté politique de la chose. Et vous savez à quel point on peut avoir un sentiment d'injustice en face de ce genre de situation. Maintenant, il y a la question des femmes. La question des disciples. Alors, je voudrais peut-être juste parler de Marie, qui, elle, n'était pas au tombeau, on l'a vu dans le dessin, etc., mais elle n'était pas au tombeau. J'imagine qu'elle a dû rester enfermée chez elle. Mettez-vous à la place de Marie. Marie, c'est son garçon, c'est son fils, c'est son petit. Elle l'a nourri, elle l'a longé, elle l'a fait grandir. Quand il s'est raboté les genoux sur les cailloux, elle l'a consolé. C'est son enfant. Et puis Marie, elle a eu les promesses, elle a rencontré des anges, des bergers qui avaient entendu les anges, elle a rencontré les rois mages, etc. En plus de ça, on lui a dit « Ton enfant sera le fils du Très-Haut ». Elle sait bien qui est le père. C'est pas à elle qu'on va la lui faire. Elle sait bien qu'il est fils de Dieu. Puis alors, il y a les disciples et les autres femmes. Et puis, eux, finalement, ils ont... C'est classique, on dit, ils ont tout quitté pour suivre Jésus, etc. Mais en attendant, ils ont vécu dans une certaine précarité quand même, à courir sur les routes, à dormir chez les uns, chez les autres. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête, c'est un texte biblique. Et puis, quand on a insulté Jésus, bon, ben, ils ont pris aussi les insultes pour lui, pour eux. Ensuite, quand on s'est moqué de lui, quand on l'a trouvé bizarre, etc., c'était aussi pour eux. Ils y ont cru au Messie. Je pense à Pierre qui dit « tu es le Messie », etc. Puis qui c'est qui a assisté à la transfiguration ? C'est quand même pas commun, cette histoire. Et puis voilà que Jésus est mort. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Mais les dieux sont immortels, non ? Toute l'Antiquité le dit. Il y a un bug quelque part. Et c'est pour ça que c'est tellement noir.
Ok, pour les disciples. Mais il y avait les pharisiens aussi. Qu'est-ce que tu as prévu pour eux ?
Alors, les pharisiens, j'ai prévu quelque chose de plutôt vers espérance. Enfin, ils vont pouvoir être tranquilles. Vous vous rendez compte, cet empêcheur de prêcher en rond est mort. Super, non ? Plus personne pour contester, pour les remettre en cause. Le problème avec les pharisiens, c'est que ils ont entendu ce que les disciples n'ont pas capté. C'est-à-dire que Jésus allait ressusciter. Alors les disciples, c'est rentré comme ça. Et puis sorti comme ça, si vous lisez les textes de la Bible, il y en a plusieurs. C'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. Et puis les pharisiens, ils ont entendu et ils ont gardé. Ce qui fait que, si vous voulez, leur espérance, elle est un peu assombrie.
Ok, mais si on essaye de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, qui sont en fait ces gens qui vivent ce qu'on pourrait appeler quand même comme les plus beaux jours de l'humanité ? Dans le doute, dans la peur, dans l'incompréhension pour certains, peut-être un sentiment de trahison. Il faut s'en convaincre, hein, c'est quand même des privilégiés. Je veux dire, du côté des disciples, quel chrétien n'a jamais eu envie de prendre leur place ? Je veux dire, de voir Jésus, de pouvoir lui parler, l'observer, le toucher peut-être même. Et puis, de discuter en direct avec lui, toutes ces paraboles, toutes ces prises de position contradictoires, on peut les discuter, on peut les remettre en question, mais pourquoi t'as dit ça ? Et puis de l'autre côté, on a les pharisiens. Alors, on les voit souvent comme les grands méchants, mais eux aussi, c'est des gens exceptionnels. Je veux dire, ils sont quand même les détenteurs du savoir. Ils connaissent les textes, qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, par cœur. Ils connaissent l'histoire du peuple juif, de sa relation avec Dieu, la révélation de la personnalité de Dieu à travers l'histoire du peuple juif, l'histoire des grands hommes aussi qui ont conduit le peuple dans son histoire. Moïse, Abraham, David, les prophètes. D'ailleurs, les prophéties, ils devaient certainement les connaître par cœur. Et pourtant, les disciples, comme les pharisiens, ils ne sont pas sereins. Ils doutent. Et puis arrive l'impensable, Martine. Je veux dire, Jésus, il n'est plus dans son tombeau. La pierre, elle a été roulée. Les soldats, ils ont fui. Il y a un message qui est délivré. Jésus serait ressuscité. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça ? Quelle position adopter ? Qu'est-ce qu'il faut croire ? Est-ce que Jésus est vivant ? Alors encore une fois, on a les femmes. Les femmes qui représentent un petit peu les disciples pour nous dans cette histoire. Les femmes, elles savent pas tellement quelle position adopter, elles savent pas quoi penser de tout ça. Quelles sensations elles vont laisser dominer leurs actes. Des sensations, elles ont dû en ressentir, et puis des contradictoires. La peur, la joie, le doute, l'incompréhension, tout un tas de sensations qui peuvent faire perdre le sens des réalités. Dans tout ça, elles vont choisir la joie. Elles vont choisir de se laisser aller à penser que peut-être c'est possible, que peut-être Jésus est vraiment vivant. Et puis, dans leur course, pour avoir une réponse un peu plus claire à tout ça, peut-être aussi pour l'annoncer, certainement d'ailleurs, elles ne vont pas être déçues. Dans leur course, elles vont rencontrer Jésus. Jésus, plus exactement, vient à leur rencontre. Alors, est-ce qu'il va les remettre en question? Est-ce qu'il va mettre le doigt là où ça fait mal, comme il l'a fait dans la barque avec les disciples, quand il le réveille affolé, homme de peu de foi? Est-ce qu'il va les remettre en question? Non. Il accepte leur amour, et quelque part, il donne le sien en retour en les saluant. Ok, pour les femmes. D'autre côté, on a les pharisiens. Alors, eux, ils apprennent la nouvelle par la bouche des gardes. Ok? Qu'est-ce qu'ils laissent dominer comme sensation? Est-ce qu'ils vont se remettre en question? Est-ce qu'ils vont remettre en question leur position? Je veux dire, après tout, ils ont tout fait pour éviter ça. Non? Ils ont assuré une sécurité double, tout ça pour bien s'assurer qu'une telle chose n'arrive pas. Et ils ont échoué. Je veux dire, ils auraient quand même pu se remettre en question. Et s'il avait dit vrai, qui est vraiment Jésus? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir notre position sur ce sujet? Après tout ce qui est arrivé, tout ce qu'on a fait pour le garder dans son tombeau, un cadavre. Et puis, ben voilà, ils prennent peur. Peur peut-être d'être ridiculisés. Je veux dire, ils sont quand même, vis-à-vis des Romains, les responsables de la communauté juive. Alors ils demandent la mort d'un perturbateur, ok. Mais ils n'arrivent même pas à garder son cadavre. Vous imaginez, pour les Romains, ils ne peuvent pas cautionner autant d'incompétences. Et puis eux, ben, Jésus ne vient pas les rencontrer. Il aurait pu venir leur dire, ben voyez, je vous l'avais dit, regardez, touchez, comme Thomas, vérifiez. Non, dans leur enfermement, ils sont tout seuls. Alors qu'on se dise chrétien ou pas, quel que soit ce qu'on considère de Jésus, sa résurrection, elle nous interpelle. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi aujourd'hui? Qu'on soit proche de Jésus, de la parole ou pas, il ne suffit pas d'entendre le message comme les disciples, comme les pharisiens, encore faut-il se l'approprier. Il y a deux exemples qui montrent bien ça. Judas d'un côté, le disciple que la surdité au message de Jésus va pousser à la trahison. Et puis Nicodème de l'autre, souvenez-vous, le pharisien qui va chercher Jésus pour avoir plus de réponses et puis qui va croire. Tout ça, ça nous montre qu'il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas les bons disciples contre les mauvais pharisiens. Il n'y a pas les bons chrétiens contre les païens insensés. On a tous à se remettre en question, à se demander, mais finalement, quelle est ma perception du bien et du mal, de ce que je pense être vrai ou faux, mes acquis de conscience? Moi, chrétien, d'abord, est-ce que je suis encore capable, ou encore en marche, vers Jésus, vers sa personnalité, vers ses qualités, ses enseignements, complexes d'ailleurs, trop complexes pour être compris en un seul temps d'une vie? Les enseignements de Jésus, les paraboles, c'est des enseignements qui prennent un sens nouveau en fonction du contexte qui est le mien. Je veux dire, c'est des paraboles qui parlent aux jeunes comme aux vieux, qui parlent aux ouvriers à la chaîne comme aux PDG. Est-ce que je suis encore capable de me laisser surprendre par Dieu, par les défis qu'il pose sur ma route, comme autant d'opportunités d'aller à sa rencontre, de découvrir un peu plus sur lui, de qui il est, ce qu'il veut de moi, ce qu'il attend de moi, ce qu'il voit en moi. Par exemple, renouer contact avec une sœur lointaine, que j'ai jamais vraiment compris, ou bien oser revenir vers cet ami qui a pris ses distances ou que j'ai laissé partir. Ou encore remettre sur la table un concours que j'ai pensé hors de portée ou une carrière que j'envisageais pas faite pour moi. Ou oser affronter un départ ou un retour avec le même courage. Qu'est-ce que j'ai fait au fond de ce souffle de vie que Dieu m'a donné? Est-ce que j'ai embrasser comme il se doit cette nouvelle vie? après tant d'années, pour certains, dans cette Église. Est-ce que je suis encore capable d'accepter, comme les disciples, l'inacceptable ? Ils ont du mal à croire, les femmes. Est-ce que je suis capable de croire aux fadaises des femmes ? Et puis moi qui n'ai jamais considéré, ne serait-ce que la possibilité, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que j'oserais remettre en question ma foi en moi-même, en ma capacité à me gérer, à gérer mes relations, mes compétences professionnelles, ma personnalité, mes relations aussi. Est-ce que j'oserais remettre sur le billard cette foi syncrétique que j'ai construite au long des années ? Est-ce que je suis aussi ouvert que je le prétends ? Alors, on peut se rassurer, parce que si ces questions, elles sont lourdes, elles sont profondes, elles sont fortement aptes à ouvrir ou rouvrir des plaies parfois profondes, Jésus ne nous laisse pas seuls. À celui qui court pour annoncer ou pour chercher une réponse à ces questions. Jésus vient à sa rencontre, à l'exemple de ces femmes. Et puis il ne vient pas avec un jugement, mais il vient avec amour, il accepte l'amour qu'on lui donne, et il donne le sien en retour, en nous saluant. Jésus, le ressuscité.
C'était quelques mois auparavant, j'avais lu le serment sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. J'avais petit à petit saisi la réalité que ma vie jusque-là me séparait de Dieu. Et voilà que un jour, en discutant avec des chrétiens, j'ai compris le pourquoi de la mort de Jésus sur la croix. Que c'était pour moi, pour porter ma dette, payer le prix de mes fautes, qu'il a été crucifié sur la croix un vendredi. Et voilà, quelques mois plus tard, je cherchais à mieux connaître ce Dieu que je découvrais dans la Bible. Je travaillais pour mon père au nord de l'Angleterre et je logeais chez des amis que je connaissais depuis très longtemps, depuis l'école. Eux, ils étaient partis pour la semaine, ils m'ont laissé leur maison et j'ai pensé, mais voilà une occasion de passer du temps à chercher à mieux connaître ce Dieu qui m'a aimé à ce point. Et j'avais décidé de consacrer du temps le soir, j'ai choisi de ne pas manger et de lire la Bible, d'essayer de mieux connaître un tel Dieu. Aussi surprenant que ça peut sembler être, j'avais pas jusque-là saisi la réalité de la résurrection de Jésus. Oui, on me l'avait expliqué, j'avais lu, mais c'était pas devenu une réalité. Et une de ces soirées-là, en m'arrêtant, en cherchant la présence de Dieu, tout d'un coup, j'étais habité par une joie et une conviction soudaine, ça fait le déclic, peut-être on pourrait dire, que Jésus est vivant. C'est un peu bête, quelque part, parce que je le savais dans ma tête, mais j'étais saisi, habité par la réalité que le Sauveur est vivant. Il est ressuscité. Je pourrais maintenant lui parler à tout moment. Dans ma solitude, j'étais plus seul. C'était absolument fantastique. Rencontre de cœur. Il n'y avait pas de présence ni de discussion, mais je savais, sans l'ombre de doute, que le Seigneur Jésus est vivant. Ça, c'est une étape qui m'a vraiment lancé dans la prière. Maintenant, je pouvais à tout moment lui parler. Parce qu'il est vivant pour toujours. Ça m'a lancé aussi dans une voie. Parce que si il s'était engagé à ce point pour son peuple, alors maintenant, je voulais à mon tour m'engager à ses côtés pour œuvrer dans ce peuple qu'il aime tant, son Église. Mais le fond, c'était, je savais maintenant, le Seigneur est réellement ressuscité. Jusque-là, il faisait encore noir, et puis la lumière fut.
sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes peines. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'elle.
Notre Père, merci pour cette vie qui est aujourd'hui possible grâce au sacrifice de Jésus et grâce à sa résurrection. Merci pour l'espérance que tu nous donnes, que tu nous donnes la vie aujourd'hui pour l'éternité, telle que tu l'as donnée à Jésus. Amen.
j'adore le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour
Christ dans les lieux célestes, regardons ensemble l'ennemi vaincu, assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. A délivré de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, Seigneur.
Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors, il leur dit, ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu, ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps. Puisque nous partageons entre tous ce même pain. Seigneur, ce matin, nous prenons à nouveau la coupe, nous partageons ensemble le pain en souvenir de toi. Toi qui étais meurtri, brisé, livré à mort, tu es maintenant vivant, le ressuscité, réellement, vraiment, réellement. Tu es là parmi nous pour nous dire que nous sommes effectivement un seul corps, ton corps, membres les uns avec les autres. Alors c'est dans la joie, Seigneur, maintenant, que nous bénissons cette coupe, ce pain, et nous prenons ce repas les uns avec les autres, en ton nom, Seigneur. Amen. Et bon appétit. Voilà, alors je vous souhaite un bon appétit. La lumière commence à se lever. Ce jour de Pâques, le Seigneur est réellement ressuscité. Je rappelle, dimanche prochain, nous allons à nouveau être autour des tables, mais après le culte à l'heure habituelle, parce que on propose un repas canadien dimanche prochain, mais ce sera pas le petit déjeuner, ce sera à midi. Et pour des questions pratiques, les petits sachets pour l'offrande vont se situer là-dehors quelque part en sortant, si vous y pensez.
Avant que vous ayez les bouches trop remplies, on vous propose juste de conclure ce temps de scène avec un chant encore. Mon Dieu, par quel amour.
Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi. Libéré, oh quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné pour moi, il paie.
Bon appétit.